Marc-Antoine Reed, bon mardi.
Bon mardi, bon début de semaine. C'est vrai qu'on débute la semaine ensemble.
Tu profites du long week-end?
Toujours l'action le fun. De grâce? Toujours le fun. Ça fait quand même toute une différence à la troisième petite journée. Là.
Ouais. J'avais hâte à la discussion de cette semaine parce qu'on l'avait un peu fait en deux parties. Là. On a commencé, on a mis la table la semaine passée quand on parlait du Celiap.
Ouais.
Et le rap aussi, on avait parlé de la possibilité de rapper pour une première demeure, une première maison.
Ouais.
Et c'est la suite de la discussion. Là. On va jaser là, de l'achat d'une première propriété.
C'est ça, exact. Puis très bonne introduction, Reg. Puis je tiens à mentionner, là, la semaine dernière, tu l'as bien dit, on a expliqué beaucoup le Celiap qui est plus nouveau que le rap, mais on a fait allusion au rap. Puis, je voudrais amener une petite précision. La semaine dernière, j'ai parlé des critères du rap un peu quand le Celiap est arrivé. Mais il y a eu des petites modifications là, depuis le mois d'avril, depuis le dernier budget.
Okay.
Fait que, j'avais fait allusion aux 35 000. Là. Ça a été pendant des années 35 000. C'est rendu 60 000 par personne qu'on peut rapper.
Oh.
Fait que, je tenais à le mentionner, mais je ne l'ai pas, tu sais, dans les conversations qui coulaient, je ne l'ai pas précisé que depuis avril. Puis un petit peu plus de lousse pour le remboursement là, avant de commencer à rembourser, à renvoyer dans ton propre REER ce que tu as rappé. C'est 5 ans le délai avant de commencer à le faire une fois par année, sur 15 ans.
Très intéressant.
Pour aider, étant donné que le
prix des maisons... C'était combien avant?
C'était 35. C'est, deux ans de pause, puis après ça, on partait pour le remboursement sur 15 ans. Là, c'est 5. Fait que plus de sous disponibles, étant donné que les maisons sont plus chères, puis plus de temps pour rembourser, parce que les premières années, des fois, le budget est un petit peu plus serré, là, les premières années.
Ah, c'est parfait.
C'est l'année où tu commences ton hypothèque. Fait qu'on avait mis la base là-dessus, puis cette semaine, je vous mets comment on met ça en place, là, préparer votre achat là, d'une première maison. J'ai comme un peu trois portions à ça, là, tu sais, puis quelques conseils pour finir. La troisième, je vais passer un petit peu plus vite, vous allez comprendre pourquoi. Le premier sujet, c'est le budget. Il y a différents volets au budget. Première affaire, comment vous pouvez emprunter. Fait que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne là, sans que vous deveniez des experts. Il y a deux grands ratios que les institutions financières regardent.
Okay.
Le premier, c'est, ils appellent ça l'ABD, l'amortissement brut de la dette. C'est les frais qui sont liés à ta maison. Puis le deuxième, c'est incluant toutes tes autres obligations, tes autres paiements de dette. Fait qu'il y a des ratios à ne pas augmenter. Le premier, l'ABD, les banques veulent 32% maximum. Comment ça fonctionne? Mettons que vous gagnez 120 000 à deux dans un ménage. Pour faire un calcul facile, ça fait 10 000 $ par mois. Mais si on ne veut pas dépasser 32 %, bien, on a 3 200 $ par mois qui est de maximum qui est les frais liés à l'habitation, qui inclut le paiement de l'hypothèque, tes taxes, exact, le chauffage, puis si c'est un condo, 50 % des frais de condo.
Oui, puis faut-tu que tu inclues aussi là-dedans? J'imagine que oui, parce que je pense que c'est souvent l'erreur que les gens font. Tous les coûts reliés à l'entretien.
Les coûts liés à l'entretien, il faut les inclure dans votre budget, mais ils ne sont pas calculés
directement
dans le ratio.
Parce que, exemple, je sais que je vais avoir tant de feuilles à ramasser. Je sais qu'il va falloir que je retenne le patio maintenant aux 3 heures.
Non, ce n'est pas dans le 32%, mais définitivement, ça doit être considéré parce que les gens l'oublient un petit peu. Là. Les gens disent je paye anyway tant de loyer, je suis capable de payer ça. Mais
c'est ça, mais là, il y a ça qui arrive en surplus.
C'est correct, la maison prend de la valeur à long terme, mais en même temps, il y a des frais additionnels que
tu n'as pas nécessairement quand tu es locataire. Puis à court terme, payer à la maison.
C'est ça, exact. Fait que, donc, ça, c'est l'ABD. Puis le deuxième, donc là, dans le deuxième, lui, c'est 40 % le ratio des banques. Bien là, il faut inclure si vous avez une location de voiture ou des soldes de carte de crédit. C'est une obligation financière. Donc là, ça embarque. Donc, je reviens au même calcul. Si dans le ménage, il rentre 10 000 par mois brut, bien, il ne faut pas dépasser 4 000 au total de paiement. Sinon, on t'a risque de ne pas être capable de payer l'hypothèque.
Y a-t-il des banques, Marc-Antoine, plus lousses que d'autres? Dans le sens que des fois, puis tu sais, je l'ai déjà vécu, il y a des gens, t'approches une institution financière pour ton hypothèque, cette personne-là te refuse, mais là, tu t'en vas voir une autre institution, puis t'as la même situation ou presque, mais elle est prête à t'endosser, puis à te passer. Y a-tu un petit lousse ou...
Les banques qui aiment rendre ça de la même façon, si on veut. Là, t'sais, puis ils ont amélioré leur gestion de crédit de cette façon-là. Les décisions de crédit même sont prises en dehors, là, t'sais, de mettons, à Toronto, t'sais, par des analystes qui ne sont pas nécessairement en contact avec le client. Là. Des fois, quand j'ai commencé ma carrière au niveau d'une banque, des fois, on appelait t'sais, pour vendre un peu la salade, puis on y arrivait peu, là, t'sais, parce que justement, ils veulent ça détacher. Mais oui, on peut être refusé à une banque, mais puis accepté à l'autre. Mais c'est règle générale pas lié aux critères des ratios qui sont les mêmes. Petite précision, par contre, je vais en parler un petit peu plus tard. Si votre prêt est assuré, donc par la SCHL, bien là, ces ratios-là peuvent augmenter. Là, que les ratios sont plus élevés, mais en même temps, je vous le recommande pas là, ces ratios-là. Parce que si vous voulez manger du cheese whiz à toutes les semaines, puis que ce soit votre beau repas de la semaine, c'est la meilleure façon de faire les choses. Puis on aime ça profiter de la vie un petit peu, puis qu'il en reste un peu. Ça fait que si vous allez dans le haut des ratios, ça va prendre des restrictions fortes puis une bonne gestion budgétaire. Ça fait que ça, c'est combien vous pouvez emprunter, mais le budget, c'est pas juste combien vous pouvez emprunter. Je viens d'y faire allusion un petit peu. C'est aussi combien vous pouvez payer. C'est quoi votre vie, puis c'est quoi... Qu'est-ce que vous faites comme loisir pour être capable de continuer d'avoir du plaisir? Bien ça passe aussi par un budget. Fait que d'un côté, il y a combien les institutions financières peuvent vous prêter, mais c'est aussi combien vous pouvez payer puis comment vous voulez le faire pour vivre la vie que vous voulez faire. Puis le dernier petit point là-dessus côté budget, n'oubliez pas tous les frais afférents, il y en a beaucoup. Là. Vous achetez une nouvelle maison, la taxe de bienvenue, là, je vous épargne le calcul, mais ça peut représenter
4 000 $ celle-là.
Oui, c'est ça, exact.
C'est ça.
Donc, il y a la taxe de bienvenue, les frais de notaire. Après ça, la première maison, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, moi, je me souviens, j'allais au Walmart à tous les trois jours. Je pense que c'était 200 $, ça me coûtait.
L'enfer.
Il y a plein de stocks que tu te rends compte que tu n'as pas. Tu n'as pas de tondeuse. Il y a toutes sortes d'affaires.
Le canac aussi, il passe.
C'est ça, exact.
Kit, là.
Fait que ça, il y a beaucoup de frais à côté. Là, ça fait partie de ça.
Juste une petite parenthèse sur la taxe de bienvenue. Peut-être qu'au prochain budget municipal, c'est une demande des oppositions qu'elle va être étalée sur 3 ans.
Ah ouais, OK.
Oui, exactement. C'est une demande des oppositions à voir comment l'administration Marchand va le gérer.
Ce serait une bonne nouvelle. Là, du moins pour les premiers acheteurs, je pense que ça s'aide.
Oui.
Quand t'en vends une qui a pris de la valeur, c'est un peu moins pire.
Ouais, c'est
là,
ça, mais pour ton premier achat, ça te prend un bon cash flow pour ça aussi, là, parce que c'est un 3-4 000 qui part assez rapidement fumé.
Exact. Donc, il y a aussi crédit d'impôt, mais des fois, il arrive un peu tard, le crédit d'impôt pour premier acheteur. Ouais. On parle de 1 500 $ fédéral puis 1 400 $ provincial là, pour un couple qui achète. Fait que ça, c'est la portion budget. La deuxième chose, ça rejoint un peu ce qu'on avait mis la table la semaine dernière, la portion mise de fonds. Fait que, quand on décide d'acheter, c'est pas tous les gens qui disent hey, j'aimerais ça être propriétaire qui ont déjà la mise de fonds. Ça fait qu'il faut l'accumuler. Puis les institutions financières demandent des preuves. Là. Vous pouvez avoir un don d'un proche, là, avoir une lettre de don officielle, mais ils vont vérifier que vous avez votre mise de fonds. Ça prend un minimum 5% de mise de fonds pour les 500 premiers 1 000. Si la maison valait plus cher, la propriété vaut plus cher que 500 000, bien, c'est 10% de l'excédent comme mise de fonds. Ça fait qu'il y a une mise de fonds à accumuler. Si vous voulez pas que le prêt soit assuré, parce que comment ça fonctionne, on connaît plus la CHL, là. C'est une assurance. Dans le fond, il assure le prêt auprès de l'institution financière s'il y avait un défaut de paiement et tout ça, puis il charge un coût d'assurance. Les gens ne s'en rendent pas trop compte, mais ça se rajoute à ton montant d'hypothèque. Si tu mets juste 5% de mise de fonds, c'est 4% de ton montant d'hypothèque qui s'ajoute sur ton hypothèque que tu vas rembourser sur 25. Pour éviter la CHL, ça prend 20%. Donc, comment on
ça n'a pas changé, c'est encore 20%.
Oui, c'est ça, exact. Ouais. Comment on accumule la mise de fonds? Ben là, la règle numéro un, c'est dépenser moins d'argent que ce qui rentre. Puis que ça soit un projet aussi. Ça fait que des fois, c'est bon d'y penser quelques années à l'avance, là, d'autant plus que les maisons coûtent plus cher. Premier no-brainer, qu'on a parlé beaucoup la semaine dernière, le CELIAP. Moi, ce que je vous recommande, si vous voulez acheter dans les 5 prochaines années, ouvrez le CELIAP. Mettez l'argent de côté, puis soyez toujours 8 000 $ en arrière. Ça fait que je répète, là, puis vous retournerez écouter la chronique de la semaine dernière, mais on a le droit de mettre 8 000 par année, qui donne une déduction fiscale sur laquelle le rendement, il n'y aura pas d'impôt. Puis on va pouvoir sortir cet argent-là pour la mise de fonds. On peut rattraper 8 000 $ du passé. C'est pour ça que je dis ouvrez le compte, les droits commencent à s'accumuler. Laissez l'argent dans votre CELI parce que ça sert de fonds d'urgence. Puis l'année prochaine, assurez-vous de mettre le 8 000 de cette année. Puis avant l'achat, d'au moins de mettre de rattraper. Ça, c'est l'aspect numéro un. Sinon, on a parlé du RAP. Le RAP va servir à devancer votre achat, mais ce n'est pas toujours la chose à faire si vous avez la mise de fonds initiale. Puis il y a le prêt RAP aussi. Donc, la banque peut vous prêter, vous placez l'argent dans votre RAP pendant 3 mois, vous ressortez l'argent et vous remboursez le prêt. Qu'est-ce qui vous reste? Un retour d'impôt additionnel. Ça fait que c'est plus des stratégies, à mon avis, là, qui représentent tous les tableaux qui vont vous permettre de devancer l'achat que d'avoir une grande rentabilité. Mais sachez que ça existe, puis là-dessus, consultez un professionnel. Puis le troisième volet de votre achat, là, on a parlé du budget, d'accumuler la mise de fonds le plus vite et de façon la plus optimale possible. Le troisième, ben, je passe moins de temps là-dessus, c'est ce qui vous convient. C'est quoi qui vous convient comme propriété? On a vécu un marché de l'immobilier qui a été très bon, qui pourrait continuer d'être bon. Mais je dis toujours aux gens, soyez prudents, puis faites comme si c'était pas certain qu'il allait continuer d'être bon, ce marché-là. Puis l'achat que vous avez envisagé de faire, assurez-vous qu'ils correspondent à vos besoins pour au moins 5 ans.
Clairement.
Parce que acheter, ça se planifie, il y a des frais au premier achat, mais changer de maison, ça coûte cher.
Ouais.
Vous devez payer l'agent, la taxe de bienvenue, vous allez la repayer sur la nouvelle propriété.
Le déménagement.
Le notaire, les frais de déménagement, la nouvelle maison, il y a des meubles qui ne fonctionnent pas, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai souvent mes clients qui se séparent, il y en a chaque année, de dire, écoute, tu peux t'acheter de quoi? Tu sais, il y en a qui disent, moi, je ne veux pas payer dans le vide. Mais je dis, fais attention parce que c'est le moment probablement de ta vie qui est le plus à risque que ta maison ne corresponde pas rapidement. Tu rencontres quelqu'un d'autre, qui a d'autres enfants, ça ne fait plus.
Il n'y a plus assez de chambre.
Les besoins évoluent, puis la vie évolue déjà beaucoup. Si tu viens de te séparer, il y a des bonnes chances que ta vie change encore plus dans les 2-3 prochaines années, là, de différentes façons. Ça fait que ça, c'était comme mes 3 volets. Ça fait que là, je vous lâche parce que ça fait un petit bout de temps là, pour respecter le temps. Quelques conseils en rafale là-dessus. J'en ai déjà abordé certains. La première chose, essayez de ne pas aller dans les limites des ratios. Mm-hmm. La vie, c'est pas juste payer son hypothèque et de rester à la maison parce que tu n'as pas de sous pour faire
ce qui passionne.
Oui, c'est ça, exact. Fait que de ne pas aller à la limite des ratios, sinon, trouver d'autres façons ou soyez un peu plus patient puis attendez. Je viens de le mentionner, d'acheter quelque chose qui répond au minimum aux besoins pour 5 ans puis espérons plus. Comme ça, si tu as 2 années moins bonnes sur l'immobilier, bien, la maison a le temps de prendre de la valeur, puis quand tu vas déménager, tu ne seras pas en dessous de ce que tu as payé si tu as mis une mise de fonds. Ne pas sous-estimer tous les frais afférents à côté, puis les frais d'entretien, là, particulièrement dépendamment du type de résidence que vous achetez. Le montant de la mise de fonds, là, allez chercher des bons conseils. Il y a plusieurs erreurs d'optimisation qui sont faites là-dessus. Il ne faut pas généraliser, mais règle générale, c'est que si on est vraiment à moyen, le 20% peut être tentant. Sinon, c'est 5 pour la plupart des gens. De mettre 10% pour payer un petit peu moins cher de frais CHL, là, vous êtes mieux. C'est sûr, si vous achetez des biens de consommation avec la différence, c'est pas bon, mais l'indépendance financière, la retraite, on en parle souvent, c'est super important. Puis une grosse maison, même si elle a une grosse valeur à la retraite, ça vous donne pas de revenus de retraite. Puis quand on est habitué de vivre dedans, c'est rare que les clients vont se dire, hey, là, je veux prendre ma retraite, je vais vendre la maison dans laquelle j'ai vécu, puis je suis bien, puis je vais aller vivre dans quelque chose de 4 fois plus petit. Là. C'est quand même plutôt rare.
J'ai un dernier petit conseil. Si vous achetez une maison à plus bas prix parce qu'il y a des rénovations à faire, toujours calculer un 15-20% de plus que ce qu'on vous a dit. Hey, ça va te coûter 40 000 en réno. Ben, prévois-en, prévois-en 50-55 parce qu'il y a toujours des surprises quand tu fais des réno. Puis là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la gorge à cause de ça. Ah, oh, shit, j'avais pas prévu ce 10 000. Là. 10 000,
c'est pas une si grosse différence sur les paiements avec ça, puis vous pouvez, dans la plupart des institutions financières, de toute façon, rembourser jusqu'à 15% de, sans pénalité de votre hypothèque chaque année. Ça fait que si ça s'est mieux passé que l'excédent qu'on s'était gardé, vous pouvez faire un paiement forfaitaire. Encore une fois, c'est la meilleure chose à faire. Mais tu sais, payer l'hypothèque, mais tu sais, garder à l'esprit, faut mettre, pour la plupart des gens, il y a des exceptions, mais il faut mettre de l'épargne à chaque année, ça, il n'y a pas d'exception si vous n'êtes pas retraité.
C'est clair.
Puis REER, CELI, ça en prend aussi. Ça fait que c'est de trouver un balan là-dedans, dans tout ça. Et pour ça, ça prend des bons conseils. Pas juste un conseil de quelqu'un qui est habitué de prêter les sous, mais qui a une vision d'ensemble, puis qui va regarder, oui, l'hypothèque, il faut la payer à telle vitesse, mais faire telle chose avec tes surplus, c'est encore plus rentable que ton hypothèque, puis vous aider pour la grosseur de la mise de fonds.
Toujours facile de contacter toi et ton équipe, Marc-Antoine, si on a des questions, si on va en jaser.
Absolument. On a un numéro sans frais qui illustre bien ce qu'on fait comme travail, donc des plans financiers pour nos clients. Puis sinon, ça nous fait plaisir d'avoir les conversations aussi qui vont guider les gens pour leur éviter des erreurs. Donc, un 833 ton plan. Sinon, vous pouvez nous googler équipe Marc-Antoine Ray d'RED. Vous allez trouver notre site Internet ou même réécouter la chronique sur votre site qui est très bien faite.
Le blvd.fm. On s'en reparle mardi prochain.
C'est un rendez-vous.
Bonne semaine de 4 jours.
Ben oui.
Profites-en bien. Vous circulation avant la pause, Max?
Ouais, pont de Québec, accident. Il y avait 2 voies de bloquées. La voie du centre est rouverte. Donc, la voie de droite présentement qui est bloqué pont de Québec direction nord.
Quoi que ce soit, signalé 418-971-1021.